J'ai rendez-vous avec vous, une émission de la communauté des radios publiques de langue française.
Une moustache, une guitare, voici l'enfant terrible de la chanson, Georges Brassens.
J'ai quand même l'impression de bien ressembler à mes chansons. Je crois, oui. Je ne suis pas tout à fait l'ours qu'on annonce à l'affiche, évidemment, mais il y a quand même un peu de vrai là-dedans.
Une émission proposée par Fabienne Chauvière, réalisée par Marie-Annick Rimbaud.
Poète, prends ton luth, Georges Brassens, ramassez votre guitare, c'est à vous.
Vous savez, quand on débute, on reproduit, on subit des influences, évidemment, on ne peut pas arriver à s'en déprendre. Il m'a fallu très longtemps avant de... Même quand j'étais capable, si vous voulez, d'avoir une émotion personnelle, je faisais toujours référence à ceux que j'avais aimés, en particulier Trainé et Mireille.
C'est à Paris que Georges est devenu Brassens au début des années 50. Et c'est à Sète, où il est né en octobre 1921, qu'il a grandi sous le soleil du midi, au son des chansons populaires de la rue, à côté du phonographe familial et au milieu de ses copains, déjà. Quelles ont été les influences de la jeunesse de Georges Brassens sur sa carrière? Comment est né son goût pour la poésie et les chansons? Victor Laville, ami d'enfance, ami de toujours, nous raconte dans cet épisode le Georges qu'il a connu. Vous découvrirez également dans cette émission le premier interprète de Georges Brassens, René Isquin, rencontré en Allemagne en 1942. Et puis aussi les petites merveilles des archives sonores de nos radios.
Ah ben ça c'est bien Georges, tu prends la guitare. Avant nous, il y en a beaucoup d'autres qui sont allés nous montrer le chemin de la lune. Il y en a un en particulier, je crois, c'est Jean Tranchant.
Oui, j'aime beaucoup le père Tranchant.
Écoute, je crois que la meilleure surprise à nous faire, peut-être, ce serait de te demander... C'est une bâcherie que je te fais, mais ça fait rien. Je te demanderais de nous chanter une chanson de Jean Tranchant.
Mais quelle pourrait chanter Jean Tranchant? Je ne les connais pas toutes par cœur, j'en connais un petit bout. Je connais... Il existe encore des bergères qui surveillent leurs blancs moutons. Elles ont la taille légère et un vieux bâton. Malgré le règne des machines, dans certains villages cachés, un vieil ânon courbe l'échine tout en haut d'un rocher perché. Et dans les prés, sur l'herbe verte, le voyageur fait quelquefois la plus heureuse découverte d'une bergère au fin minois. Qu'il existe encore des bergères qui surveillent leurs blancs moutons. Elles ont la taille légère et un vieux bâton.
Je connais Georges depuis toujours, et bien sûr.
Victor Laville, ami d'enfance, ami de toujours.
L'été, en gros, c'était la plage tout le temps, hein, comme tout le monde. L'hiver, c'était le cinéma à 4 heures. Et avant le cinéma, on avait une manie quand il faisait beau. On était 4 ou 5, la petite bande. On faisait le tour de la colline à pied pour passer le temps, pour attendre l'heure du cinéma. Quand il faisait mauvais, on allait dans un bistrot, on jouait au billard. En gros, c'est l'essentiel de notre vie d'adolescent.
Georges Brassens, 1979.
Il faut dire qu'avant 1935-36, la plage de Sète, qui est quand même assez longue, puisqu'elle va presque jusqu'à Agde, enfin jusqu'à Marseillan, elle fait à peu près une quinzaine de kilomètres. Au bout de 3 kilomètres, elle était à vous, quoi. Et comme nous, dans notre bande, nous étions particulièrement ours, nous allions à l'endroit où il n'y avait personne. Au bout de 3 kilomètres, il n'y avait personne, mais c'était surtout des enfants qui allaient à la plage. On y allait jusqu'à 16, 17, 18 ans, d'abord tout petit pour faire des pâtés, et un peu plus tard pour voir des filles, quoi. Et puis après, quand on était mariés, tout ça, on n'y allait plus à la plage. C'était pas la mode.
On devait critiquer les adultes, j'imagine, comme d'habitude, parce qu'on rêve beaucoup, heureusement d'ailleurs, à cet âge-là, c'est formidable. Si on savait. Donc, il y avait deux catégories de gens, ceux qui ne rêvaient que de partir pour Paris, faire quelque chose, et il n'y avait que Paris, et puis d'autres qui s'en foutaient, qui restaient ici. Hein. Ils vendaient des fruits, ils allaient à la pêche, ils faisaient n'importe quoi. Georges écrivait ses poèmes toujours, il a commencé très jeune, en classe, à côté de moi. Moi, j'aimais beaucoup la lecture, le dessin, etc. Je rêvais des journaux. Moi, j'étais plutôt tourné vers ça, les journaux, le dessin, vous voyez. même tout petit, hein, bon, c'est comme ça. C'est bizarre. Bon. Et puis un autre qui rêvait de cinéma, hein, un copain qui rêvait de théâtre, de cinéma. Alors, on n'arrivait pas d'aller faire la plonge à Paris. Hein. Mais Georges ne pensait jamais une seconde faire une carrière de chanteur ou parler de chanter, vous voyez. Il chantait pour lui, pour, comme ça, comme nous, on chantait entre nous. On avait découvert les grands orchestres américains à l'époque, c'était le jazz qui arrivait, c'était la période Mireille, Jean Sablon, c'était Jean Noël qui animait un journal qui s'appelait Benjamin, je me souviens. Il y avait les chanteurs de charme de l'époque, et évidemment, il y avait le grand Tino aussi. Et Georges aimait bien, hein. On pourrait imaginer que c'est... Non, mais il adorait les chansons, il trouvait que Scotto, qui était le maître d'œuvre hein, des chansons de Tino, ça valait quelque chose. Puis il y a eu un truc formidable, c'était, qui a tout bouleversé, et surtout Georges, c'est l'arrivée de Trenet, Charles Trenet. Ça, là, ça a été, pour notre bande, ça a été un cataclysme. Il a tout bousculé, en fait, dans les chansons de les petites rengaines, les chansons de charme un peu guimauve de l'époque, tout ça, ça a été balayé par Trenet. On l'écoutait, on le fredonnait, on le sifflait suivant les possibilités de chacun.
Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir et la caissière souriait. Dans son comptoir, vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Par terre, on avait mis de la sciure de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. Bien installé devant la grande table, vous invitiez des ducs et connétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition, vous avez déclaré, moi j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez fait au grand café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café. Plein de manieurs, vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café.
Georges Brassens, 1979.
Je me suis intéressé surtout, il faut bien le dire, à la chanson, parce que dans ma famille, tout le monde chantait. Alors dès l'enfance, dès l'âge de 3-4 ans, enfin à l'époque où on commence à prendre conscience, je me rappelle avoir chanté. Et ma mère passait son temps à chanter, puisque jusqu'à un âge très avancé, jusqu'à peut-être 50 ans, elle copiait encore... fait qui peut paraître extravagant aujourd'hui, mais qui n'était pas rare en ce temps-là, elle copiait encore des chansons qu'elle entendait, et elle allait encore chez des copines pour compléter des textes minables d'ailleurs, des textes qu'elle ne savait qu'incomplètement. C'est comme ça que je me suis intéressé à la chanson. Et j'ai passé jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, où j'ai commencé à croire que je savais écrire des chansons, j'ai passé mon temps à tout écouter, n'importe quoi. Mais c'est la musique qui m'importait d'abord, le texte m'importait peu. J'arrivais déjà, n'étant pas trop connard de nature, j'arrivais déjà à distinguer quand même un bon texte d'un mauvais, enfin dans la mesure où dans la chanson on peut parler de bon texte, parce que c'était très rare en dehors des chansonniers, genre 1900, des types comme Maurice Donnet qui écrivait les chansons, qui troussaient assez bien les couplets. La chanson de music hall à ce moment-là, elle était faite surtout pour la musique. C'est là que j'ai, en somme... Ma culture se tient là-dedans, dans toutes les chansons qu'on chantait depuis 1900, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas cette grande querelle entre les générations, et ma mère chantait les chansons de sa grand-mère ou de son grand-père, les chansons de sa mère. Elle était napolitaine, ma mère. Elle chantait d'abord, j'avais en plus ce répertoire, des chansons italiennes. Et puis elle chantait les chansons qui était à la mode à cette époque-là, les chansons qui avaient été à la mode du temps que sa mère avait 20 ans. Enfin, on chantait un peu n'importe quoi, on chantait tout, et on conservait les chansons dans la mémoire, et on se les rechantait. J'ai entendu ma mère chanter 100 fois 100 fois rêve de valse. Elle, elle chantait les chansons de son époque. Elle chantait mais les chansons de mon époque. Et moi, je faisais pareil. Le phonographe était extrêmement plus répandu qu'on ne le pense aujourd'hui. Il y avait des phonographes à peu près partout. La radio est venue vers les années 30, un petit peu avant. Mais enfin, elle a commencé à se répandre tout doucement dans les foyers aisés dans les années 30. Dans les foyers un peu moins aisés, elle est arrivée en 33-34. J'ai entendu la musique, la chanson surtout. Je me suis intéressé à la musique par le biais de la chanson. Puis en ce temps-là, tout le monde chantait quand même. Les gens conservaient les chansons, le public populaire considérait la chanson comme c'était l'art populaire par excellence en ce temps-là, la chanson. Et c'était un petit trésor.
La veuve et l'orphelin, quoi de plus émouvant? Un vieux copain d'école étant mort sans enfant, abandonnant au monde une épouse épatante, j'allais rendre visite à la désespérée, et puis ne sachant plus où finir ma soirée, je lui tins compagnie dans la chapelle ardente, pour endiguer ses pleurs, pour apaiser ses maux, je me mis à blaguer, à sortir des bons mots. Les moyens sont bons aux médecins de l'âme. Bientôt par la vertu de quelques facéties, la veuve se tenait les côtes, Dieu merci, ainsi que des bossus tout de nous rigolâmes. Ma pipe dépassait un peu de mon veston, aimable elle m'encouragea pour la don. Qu'un impératif moral ne vous arrête, si mon pauvre mari détestait le tabac. Maintenant la fumée ne le dérange pas, mais où diantrais-je mis mon porte-cigarette? À minuit, d'une voix douce de séraphin, elle me demanda si je n'avais pas faim. Ça le ferait-il revenir, ajouta-t-elle, de pousser la piété jusqu'à l'inanition? Que diriez-vous d'une frugale collation? Et nous fîmes un petit souper aux chandelles. Regardez s'il est beau, dirait-on point qu'il dort. Ce n'est certes pas lui qui me donnerait tort de noyer mon chagrin dans un flot de champagne. Quand nous eûmes vidé le deuxième magnum, la veuve était émue, non d'un petit bonhomme, et son esprit se mit à battre la campagne. Mon Dieu, ce que c'est tout de même que de nous, soupira-t-elle en s'asseyant sur mes genoux. Et puis ayant collé sa lèvre sur ma lèvre, me voilà rassuré, fit-elle, j'avais peur que sous votre moustache en tablier de sapeur, vous ne cachiez coquettement un bec de lièvre. Un tablier de sapeur, ma moustache pensée, cette comparaison méritait la fessée. Retroussant l'insolente avec nulle tendresse, est-ce conscient d'accomplir somme tout un devoir, mais en fermant les yeux pour ne pas trop en voir, paf, j'abattis sur elle une main vengeresse. Aïe, vous m'avez fêlé le postérieur en deux, se plaignit-elle et je baissai le front piteux, craignant avoir frappé de façon trop brutale. Mais j'appris par la suite et j'en fus bien content que cet état de choses durait depuis longtemps. Menteuse, la fêlure était congénitale. Quand je levai la main pour la deuxième fois, le cœur n'y était plus, j'avais perdu la foi. Surtout qu'elle s'était enquise la bougresse. Avez-vous remarqué que j'avais un beau cul? Et ma main vengeresse est retombée vaincue. Et le troisième coup ne fut qu'une caresse.
Oh, ses parents, c'était des gens très simples, très gentils, qui adoraient bien sûr leur fils. Hein.
Victor Laville.
Alors, la main de Georges était formidable aussi. C'est une maison qui chantait beaucoup. Alors, tout le monde chantait à l'époque, les rues chantaient à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est un truc qui a complètement disparu puisque les gens écoutent, ont des trucs, machin, ils sont chez eux. Ça ne bouge plus. La rue était, surtout les villes du Midi, était très musicale. Donc, sa sœur chantait, son père, sa mère, etc.
Adieu, Venise provençale, adieu, pays de mes amours. Adieu, cigalons et cigales, dans les grands pins, chantez toujours. Barques eaux douces, couleurs collines rousses, de fleurs au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu, Venise provençale, adieu pays de mes amours.
Comme école, j'ai d'abord eu mon oreille, bien sûr, pour la musique, je n'ai eu que mon oreille, mais c'est très suffisant pour la musique, l'oreille.
Georges Brassens, 1979.
Sans doute pour le reste aussi, il est très possible qu'un analphabète placé au milieu de gens cultivés puisse devenir à son tour cultivé lui-même rien que par l'oreille, rien qu'en écoutant les autres. Bien sûr, on prend ça comme on prend l'accent, hein, finalement. Mais mes parents n'étaient pas cultivés. Mais en matière de chansons, ils s'y connaissaient quand même pas mal. Ils avaient ça, infus, quoi. Ils avaient le goût de la musique. Mon père et ma mère l'avaient, je ne parle pas des autres qui l'avaient aussi. Et ma sœur aussi, tout le monde. Ma sœur qui était mon aînée de 10 ans, ce qui a été bien pour moi, parce que, étant mon aînée de 10 ans, elle m'a amené voir les premiers films parlants. Alors j'ai vu George Milton en 100 ans. Les films chantaient surtout. Ils ne parlaient pas tellement, ils chantaient surtout. Vers les années 30, 31, je crois que c'était 29, 30, 31, 7, enfin je ne me rappelle plus exactement. C'est là que la vocation, c'est... Enfin, je ne me suis occupé que de ça. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai négligé mes études, parce que je passais mon temps avec une musique dans la tête. Et dès que j'avais entendu une musique qui me plaisait, je la ruminais pendant une semaine ou deux ou trois, puis je l'abandonnais après au profit d'une autre. Mais elle revenait après si elle tenait le coup. Et je passais mon temps à éprouver des espèces de frissons que je n'ai jamais dans la vie ressentis autrement que par la musique. Il m'est arrivé après, à cause de la musique, quand je me suis dit il faut écrire des chansons, alors je me suis quand même demandé si j'en étais capable.
Georges Brassens en duo avec Tino Rossi.
Si Venise la belle a d'immenses lagunes, des masques de velours, des poignards, des palais, Bretagne n'as-tu pas tes paysannes brunes et tes fils chevelus et tes champs de jeunesse. Oh, qu'elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Ah, qu'il est doux de sentir la brise qui vient du large avec les flots. La brise qui vient du large. Avec les flots, avez-vous admiré son océan qui gronde, ses falaises, ses bois, ses bruyères en fleurs, ses longs genêts dorés dans la gorge profonde? Quand l'humide matin les baigne de ses pleurs. Oh, qu'elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Ah, qu'il est doux de sentir la brise qui vient du large avec.
les flots, la brise. Qui vient du large avec les flots.
Victor Laville.
C'est un élève très moyen, un peu dissipé, assez agitateur dans son genre. Il aimait bien faire piquer les autres. Il sait qu'il il aimait faire rire un copain qui se faisait attraper ensuite. Vous voyez, c'était un peu le... Dans le milieu, on dit « il attise hein? », « attissouse », on dit. Et c'est-à-dire qu'en douce, hein? Gentiment, vous voyez, c'était pas du tout dans des intentions particulières de faire aller à l'autre en retenue ou pas, non. Oh, mais il était déjà costaud, il se démarquait dans la bande parce qu'il était un peu plus grand, plus costaud que nous, très brun. Mais il ne jouait pas, de sa carrure ni de sa force, hein? Non, du tout. Non. J'ai eu bon affaire comme Georges, c'est un jeune prof, qui détonnait d'ailleurs dans la lignée de tous les profs que nous avions. Tous les autres profs étaient des gens très conventionnels, finalement, enfin, qui correspondaient à leur moment, à leur époque. C'est-à-dire, toujours un costume sombre, la chemise, la cravate, le chapeau mou, sérieux, comme des papes, etc., etc., autoritaire. Et Bonafé était un garçon qui arrivait, lui, en chandail, col roulé, trois bouquins sous le bras. Et au lieu de s'asseoir derrière son bureau, s'asseyait sur le bureau, face à la classe. Alors, ça enthousiasmait, vraiment, il séduisait les autres, vraiment. Hein. C'était pas un truc, mais ça marchait bien, en tout cas. On n'avait pas affaire à un bonhomme qui venait pontifier.
Georges Brassens, 1962.
Le professeur qui s'appelle Bonafé, qui m'a intéressé, ce qu'on est convenu d'appeler les belles lettres, quand j'avais 16-17 ans. Qui a cru trouver en moi un germe poétique et qui a essayé de le développer. Je le vois toujours, d'ailleurs. Il n'est pas tellement plus âgé que moi. Il avait à peine une douzaine d'années. C'était un très jeune prof à ce moment-là. C'était un prof de lettres. Il enseignait le latin et le français au collège. Chaque fois que je fais une chanson, je me demande si elle lui plaît à lui, si elle va lui plaire. Alors ça m'incite à être assez sévère. Parce que lui est assez sévère. Jusqu'à présent, je dois dire qu'il les approuve à peu près toutes. À part deux ou trois, quoi, ce qui n'est pas beaucoup. Je ne sais pas s'il fait sa part, s'il est devenu plus indulgent qu'avant, parce qu'il était assez sévère, non pas sévère, mais je veux dire, il était assez rigoureux, il était assez exigeant. Je veux dire, par exemple, lui, c'était un type qui vous donnait, sur 20, vous donnait difficilement 10, 11, vous voyez, quand vous aviez fait quelque chose d'excellent. C'est-à-dire que le premier, le plus fort, avait 11, 12, au maximum.
Victor Laville.
Et c'est un garçon qui était très sensible, puisque... Il arrivait à pleurer en récitant les poèmes de Baudelaire ou de Mallarmé. On voyait des larmes qui coulaient, ouais. C'était très émouvant. Donc si on disait, on va voir le Bonaf, on disait, il est formidable, voilà, le Bonaf, c'est formidable. Je pense qu'il a joué un rôle, mais est-ce qu'il est aussi important? Parce que Georges, avant Bonafé, écrivait déjà des poèmes et a continué à écrire des poèmes après. Alors... Il y a sûrement une influence, mais aussi l'influence de la culture générale, de la vie, etc. Tout ce qui vient derrière. Hein.
Dites-moi où, dans quel pays, effleura la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène, de sur rivière ou sur étang. Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet essoine? Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme Lys, qui chantait à voix de sirène, Berthaud Grandpied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Est-ce n'enquérée de semaines où elles sont nées de 7 ans que ce refrain ne vous remène? Mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène? Mais où sont les neiges d'antan?
Moi, j'ai d'assez mauvais souvenirs. Je me souviens pas d'être rentré en classe une seule fois avec joie.
Georges Brassens, 1966.
À l'époque de l'école maternelle, ça m'embêtait de quitter ma mère. Et un peu plus tard, ça m'embêtait de quitter les vacances, une espèce de liberté. Les copains, on les voit aussi bien en dehors de l'école. Il faisait très beau à 7 là-bas. On sortait précisément de... On quittait le caleçon de bain pour mettre la blouse noire.
Victor Laville.
Il avait un cahier qu'il traînait d'ailleurs dans toutes les classes, qui était parmi tous les autres cahiers de maths ou d'histoire ou autre, un bouquin. Ce cahier, donc, il a suivi tout le temps, puis il y en a eu d'autres, bien sûr. Un jour, il y a une histoire, on était en classe d'histoire ou de géographie, je me souviens du prof, monsieur très bien, monsieur avec une petite lunette dorée, or. Très sérieux, très sévère. Et Georges était en train de me lire, de me faire passer, de me montrer, en tournant les pages, de me montrer un de ses poèmes. Oui. Qu'il commençait à appeler chanson. Oui. C'était pour lui, c'était, il mettait des airs dessus. Et il mettait des airs sur ses premiers poèmes-là. Il mettait des airs à la mode, pas des airs de Brassens. Hein. Il mettait des airs en vogue sur ses paroles. Bon. Et le prof qui nous voit, dit, tiens, monsieur, monsieur Laville a l'air d'être plus intéressé par son voisin que par ce que je dis. Alors, monsieur Brassens, apportez-moi ce que vous faites. Hein. Qu'est-ce que c'est? Et Brassens se lève et dit, monsieur, c'est des poèmes. Hein. Alors, l'autre qui se pèse la tête, dit, nous avons un poète dans la classe. Hein. Alors, vous viendrez tous les deux faire des poèmes dimanche. Alors, le dimanche, je me suis trouvé en col avec Georges. On a passé la matinée, donc, au collège, tous les deux. Voilà. Pour l'histoire des bouquins et du cahier de Georges. Mais puis ce cahier s'est développé, bien sûr. Et un jour, il a commencé donc à mettre, à gratouiller des airs. Et des airs qu'il conservait en mémoire, parce qu'il n'avait aucune connaissance de la musique au départ. Alors, il les conservait en mémoire. Il se faisait un code, plus ou moins, pour retenir des petites mélodies qu'il collait sur ses poèmes.
Il suffit de passer le pont. C'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon. Je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à Pâques fleurie. Jetons mes sabots, tes galoches, et légers comme des cabris. Courons après les sons de cloche. Ding ding dong, les matines sonnent en l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne. J'ai graissé la patte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon. Courons guilleur et guillerette. Il suffit de passer le pont. Et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères. C'est pas le coquelicot, Dieu merci, ni le coucou, mais la primevère. J'en vois une blottie sous les feuilles. Elle est en velours comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille. Je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de 3 petits bonds. C'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon. J'aurais ménagé tes dentelles. J'ai graissé la patte au berger pour lui faire jouer une aubade. L'or m'a mis sans croire au danger. Faisons 1001 gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse. Si le chardon s'y pique dedans, ne pleure pas mamie qui souffre. Je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher. On peut s'aimer comme bon nous semble, et tant mieux si c'est un péché. Nous irons en enfer ensemble, il suffit de passer le pont. Laisse-moi tenir ton jupon, il suffit de passer le pont. Laisse-moi tenir ton jupon.
Georges Brassens, 1954.
À vrai dire, ma mère ne voyait pas ça d'un très bon œil que je fasse de la musique, parce que on tenait à ce que je vive à peu près décemment. Et en ce temps-là, les musiciens ne vivaient pas décemment. Enfin, on le disait, je ne sais pas. L'enfant que j'étais, je ne me rappelle plus, c'était un enfant très médiocre, quoi, comme tous les autres. Mais ma vie intérieure, à mon sens, était très importante. Mais ma vie extérieure, celle qui peut valoir la peine d'être racontée, n'existait pas.
Elle ne présente aucun intérêt. Ma vie intérieure, je ne la sais plus, moi. Quant à ma vie extérieure, elle n'avait... Vous comprenez, je vivais toujours très retiré, comme je sentais que tout ce que je pouvais penser, tout ce que je pouvais imaginer, tout ce que je pouvais concevoir à ce moment-là, risquait de m'attirer des ennuis, c'est-à-dire de me faire déconsidérer. En ce temps-là, je tenais la considération des autres. Je le taisais. Et ce qui fait que mon apparence extérieure était tout à fait normale. Parce que j'étais un monstre à l'intérieur, mais à l'extérieur, je me comportais à peu près normalement, quoi. Je chipais des prunes par-ci, par-là, je faisais des tas de choses défendues, mais enfin, c'était ce que fait tout le monde.
Il s'intéressait généralement à trois choses. Il s'intéressait à la poésie, il s'intéressait à la musique et il s'intéressait à la gymnastique.
Éric Battista, champion de course à pied, artiste peintre, ami, c'est toi.
Et à des horaires qui lui convenaient, qui lui plaisaient. C'est-à-dire qu'il était impossible pour lui de rester une heure en place à entendre un professeur qui lui débitait une matière qu'il n'aimait pas. Si bien que son père l'a mis sur les chantiers, c'est-à-dire qu'il l'a prise dans son entreprise, parce que son père avait une assez grosse entreprise de maçonnerie, de travaux publics. Bon, et Georges a travaillé quelque temps avec lui. Et puis sur des affaires un peu de gaminerie, enfin de cambriolage, il a été contraint un peu par l'opinion publique et puis par le malaise que suscitait dans la ville ces petits larcins, d'aller à Paris. Il est allé chez sa tante à Paris et c'est là où il s'est mis vraiment à travailler, à composer. Parce que quand il était à 7, il avait toujours eu le virus de la poésie, composer, il faisait des chansons, des pièces de théâtre, des revues avec un thème, et il mettait sur des paroles, sur des musiques à la mode, quoi, à ce moment-là. Et il jouait ça avec des copains. Non, il avait déjà le virus du music-hall de la chanson. Hein. Par exemple, ses camarades s'intéressaient au football. Lui, non, lui préférait écouter les disques, le poste.
Georges Brassens, 1954.
Quel était le folklore qui arrivait à vos oreilles? Qu'est-ce que vous entendiez? Qu'est-ce que vous chantiez?
Oh, je ne sais pas, moi, la chanson du marin, là, par exemple. Pauvre marin, reviens de guerre, tout doux, c'est un peu haut pour moi. Pauvre marin, reviens de guerre, tout doux, on dirait Tino Rossi. La 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 la, à pied chaussé et l'autre nu, tout doux.
Éric Battista.
À 7, il n'avait pas encore trouvé sa voix, ni il n'avait suffisamment pas de matériaux à sa disposition pour pouvoir devenir le poète qu'il est devenu. Et ce n'est qu'à Paris, après des années de labeur, de travail, de retour sur soi-même, de critique, qu'il est arrivé à faire ses premières chansons telles qu'elles étaient. Mais s'il était parti à Paris avec les chansons qu'il avait composées à 7, il se serait fait prendre à coups de chou-fleur sur la scène, vous comprenez ? Non, c'est pour ça qu'il faut pas. Il a eu, si vous voulez, le premier Brassens qui était poète à 7 l'été, parce que dans sa famille tout le monde aimait la poésie, tout le monde aimait la chanson. Mais le vrai Brassens est né à Paris.
Les Trois Baudets, 1953.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde m'énie de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde
monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-chatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Il y a eu l'occupation, etc. Donc, il était à Paris. Il est parti au STO en Allemagne. De Paris. Moi, je suis parti au STO d'ici.
Victor Laville.
On a vécu en Allemagne, mais lui était dans les environs de Berlin. Moi, j'étais dans le sud. Georges n'était pas trop mal tombé. Une usine de moteurs, là, de moteurs d'avion, je crois. Quand ça collait, mais nous, moi, je me suis trimballé en trois camps. On crevait de faim, littéralement. Et il m'a envoyé des tickets de pain du camp, une fois.
Le STO ayant été décidé, nous sommes arrivés à, je crois, 300 à Baddorf. Baddorf, qui est au nord de Berlin.
René Isquin, rencontré en Allemagne.
Dans une usine qui s'appelait l'usine BMW. C'est là que, en se regardant un peu les uns les autres, puisqu'on se découvre, je me rends compte qu'il y a en face de moi un garçon qui est, comment dire, je ne vais pas dire superbe, c'est pas le mot, c'est un gars qui est remarquable. Remarquable, sans qu'il ait encore dit le moindre mot, on le remarque. Et je me souviens très bien que la première réflexion qui m'est venue dans ma tête, c'est que je me suis demandé ce que ce garçon-là pouvait faire dans la vie, parce que je ne le situais pas par rapport aux autres copains. Si vous voulez, en exagérant, il y avait 15 gars qui se ressemblaient, et il y avait Georges. Certes, il était beau, c'était un beau gars, c'est certain que c'est un gars qui devait beaucoup plaire aux femmes. Mais enfin, ça n'explique pas tout, ça. On s'est présenté tous les uns les autres, notre métier, notre vie un petit peu à chacun, qu'arrivé à son tour. Georges Brassens, c'est son nom, je suis chez toi. Je suis monté à Paris il y a un an ou deux. Et voilà. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais, Georges? Qu'est-ce que tu fais comme travail? T'es monté à Paris pour faire quoi? Ah, rien. Je ne fais rien. Ah bon? Alors ça a de quoi, en plus, vous êtes déjà intrigué, ça a de quoi vous étonner, parce que un gars qui ne fait rien, on a certains insisté, oui, mais quoi, qu'est-ce que tu fais? Je ne vous dirai pas les réflexions qu'on entendait, vu le beau garçon que c'était. Et puis après tout, on s'est dit, après tout, s'il peut ne rien faire et vivre correctement, pourquoi pas, hein, ça gêne personne. Surtout dans les conditions où nous étions, on n'était pas très pointilleux sur ce que chacun faisait. Voilà comment la première impression que j'ai eue de Georges.
Si gît au fond de mon cœur une histoire ancienne, un fantôme, un souvenir d'une que j'aimais, le temps à grands coups de faux peut faire des siennes. Mon bel amour dure encore et c'est à jamais. J'ai perdu la tramontane en trouvant Margot, princesse vêtue de laine, déesse en sabots. Si les fleurs le long des routes se mettaient à marcher, c'est à la Margot sans doute qu'elle ferait songer. Je lui ai dit de la Madone, tu es le portrait. Le bon Dieu me le pardonne, c'était un peu vrai. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. La mignonne allait aux vêpres se mettre à genoux. Alors j'ai mordu ses lèvres pour savoir leur goût. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Je lui ai dit par la Madone, reste auprès de moi. Le bon Dieu me le pardonne, mais chacun pour soi. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. C'était une fille sage, à bouche que veux-tu? J'ai croqué dans son corsage les fruits défendus. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Puis j'ai déchiré sa robe sans l'avoir voulu. Le bon Dieu me le pardonne, je n'y tenais plus. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. J'ai perdu la tramontane en perdant Margot, qui épousa contre son âme un triste bigot. Elle doit avoir à l'heure qu'il est, deux ou trois marmots qui pleurent pour avoir leur lait. Et moi j'ai été leur mère longtemps avant eux. Le bon Dieu me le pardonne, j'étais amoureux. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou.
René Isquin.
Quand on commence à chanter très rapidement, Georges et puis moi, ça, on se détache un peu du lot parce que tous les deux, on échange des chansons. Avec Georges Brassens, on chantait, je me rappelle, traînait Terre, terre, oui, c'est toi, terre, terre, qui donne la joie. Terre, terre, viens à moi, oui, terre, je suis à toi. C'était une des chansons de Traînait qui avait beaucoup de succès à l'époque. Il l'aimait bien, il la chantait, celle-là. Et puis tout Traînait y passait. Hein. Boum, quand ton cœur fait boum. Mais forcément, c'était notre jeunesse, hein, Traînait. Même Tino lui plaisait, parce que c'était aussi... il était de bon ton pour les jeunes d'imiter les ténors, les petits ténorinos comme Tino. Tino avait un succès extraordinaire hein, quand on était jeunes. Et curieusement, Georges aimait bien aussi parce que la musique lui convenait. Pas forcément les textes, mais sur le moment, on ne s'en occupe pas. On chante dans une chanson. Tu connais celle-là, et celle-là, tu la connais. Bref, on échangeait les chansons. Ça, c'est incontestable. Et comme sans forfanterie, je chantais correctement, j'avais de l'oreille, ça a dû plaire. Et Georges n'a pas été sans le remarquer, bien entendu. Un jour, j'ai trouvé un piano, puisqu'il existait dans ce camp un... Ça s'appelait le casino. Les Allemands appelaient ça le casino. Ça devait être, ça servait à la fois de réfectoire, les gens pouvaient se réunir. Là, avec ce piano, j'avais découvert qu'une fois par hasard, que Georges, dans un petit café où on allait, il pianotait un peu. Et pendant un temps, ça a duré où Georges me disait, tiens, on va aller faire de la musique. Ça voulait dire, on va aller. Et là, c'est là que j'ai vu que Georges, c'était le seul instrument que je lui ai vu là-bas où il plaquait des accords, mais c'était pas un pianiste, on était loin. Mais il travaillait, il accompagnait les chansons qu'il chantait. Et moi, à côté, je chantais en même temps que lui. Tu connais celle-là? Est-ce que... Et on échangeait des chansons. Et c'est comme ça, donc, un jour, il a plaqué un accord et j'ai entendu une chanson que je ne connaissais pas. Je le revois encore. Reine de bal champêtre, je viens ce soir chanter pour vous belle de tout mon être, un chant d'espoir, un chant très doux. Mettez-vous donc à la fenêtre, le temps est beau, le temps est doux. Le temps est doux, belle, pour me permettre de murmurer à vos genoux ce chant d'amour qui ce soir vient de naître. Reine de bal, pour vous, pour vous. Alors, évidemment, tout de suite, je suis emballé par cette chanson. La musique me plaît. Et tout naturellement, je dis à Georges, mais enfin, de qui elle est? C'est une des dernières chansons de Traînait que je connais pas encore, c'est quoi? Alors, parce qu'évidemment, il y avait une petite, on voulait toutes les connaître. Alors, il me dit, tu ne peux pas la connaître, mais le plus tranquillement du monde, il y en a qui auraient... Le plus tranquillement du monde, il me dit, tu ne peux pas la connaître, elle est de moi.
Les Trois Baudets en 1953.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons. Et bras-dessous, vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Et ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons.
Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage, c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu qui criait, sois sage, il posa sa bouche en guise de baillon. Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, il fera bon voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons. Pas la chasse aux papillons.
René Iscain.
J'ai été son premier interprète, étant entendu que ce n'était qu'à là-bas, mais c'est important quand même pour lui, je le suppose, parce que il me faisait chanter, il entendait une autre voix qui chantait ses chansons, et moi, comme elle me plaisait, j'avais pas, elle me faisait pas prier. Voyez-vous, le petit cahier que j'ai entre les mains, vous voyez, il est pas tout neuf, hein. Il date de l'époque. Et j'ai toutes les chansons, avec l'ordre chronologique dans lequel il me les apprend. Il me les fait chanter, il essaye des contre-chants, ce qui me fait dire que ce garçon-là a la musique en lui. Et évidemment, il y en a quelques-unes où malheureusement j'ai un peu oublié la musique, mais pas beaucoup, hein, 5 ou 6. J'en ai 40 là, vous voyez. Par exemple, si je prends Reine de Bal que je viens de vous fredonner, Georges, vous voyez, c'était très, très bien parce qu'il mettait une annotation, lui, c'est l'écriture de Georges. Et il écrit la musique. En dessous, la musique donc, de Reine de Bal est de 1938, c'est-à-dire qu'il a 17 ans quand il compose la musique. Je devais donner à cette chanson le titre de, écoutez bien, La chanson des Auvergnats. Curieux, hein, c'est dans un texte. C'est sur le piano à Paris en 1942 qu'est venue l'idée de Reine de Bal, c'est-à-dire le texte définitif. Et à chaque fois, vous pouvez constater qu'il met une petite annotation. Voyez-vous, celle-là, c'était « Qu'ils te souviennent des premiers temps de notre amour, qu'ils te souviennent du premier jour. » Elle était très belle aussi. Alors, en 1939, c'est Georges qui écrit. Et puis, on continue, Paris, 1943, un coin de bleu dans le ciel noir. Ah, celle-là, vous allez voir, celle-là, il s'en est servi. Rayon de soleil sur la route, et voici la tristesse en déroute, et voici tous les cœurs qui reprennent espoir. Un doux regard de vos grands yeux, votre main serrant très fort la mienne, ça suffit pour que je redevienne joyeux, joyeux, joyeux. Lorsque mon cœur entend des paroles méchantes, il est triste longtemps, longtemps. Oui, mais lorsqu'il entend des mots d'amour, il chante, car il est très content, content un petit coin de parapluie, contre un coin de paradis, voyez. Enfin, il met une petite note à chaque coup. Paris 42. Le ciel en avait assez. Pour ma Jeannette. Hein? Si j'ai fait cette chansonnette, c'est pour que ma pauvre Jeannette sache que je l'aime toujours. C'est pour qu'au milieu de l'orage, elle garde tout son courage et me garde tout son amour, tout son amour. Quand le ciel est couvert de nuages, quand le vent dans la rue hurle à mort, quand le monde est noyé par l'orage, le soleil brûle encore, quand Margot dégrafait son corsage. Vous voyez, c'est formidable.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému, Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain.
quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 étaient là, 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 là.
Au début, à 15 ans, 16 ans, mes parents me prenaient non pas pour un fou, mais enfin pour un enfant, quoi. Ce qui revient presque au même. Mais ils ne m'ont quand même pas contrarié. Ils m'ont conseillé de ne pas faire ça. Mais ils ne m'ont pas empêché de le faire.
Je n'ai pas le sentiment d'avoir connu le même Brassens que les autres. Ce qui est, vous allez me dire ce qui est vrai. Moi, j'ai connu un Brassens toujours le même. Pour moi, il est resté en culotte courte à 13 ans, 12 ans, voilà. Et on avait les mêmes propos, les mêmes chahuts, les mêmes... les mêmes gazanneries, qu'on ne peut pas dire plus. Voilà, on se tapait dessus, vous voyez. Même quand on avait 40 ou 50 ans, hein, c'était pareil. Quand j'allais le voir au spectacle, évidemment, j'allais par les coulisses. Alors, j'arrivais au bord de la scène, à la limite, je voyais certaines personnes du premier rang, vous voyez. Il était en scène, il jetait un coup d'œil. Et quand il passait, quand il sortait de scène, il me flanquait un coup sur l'épaule en me disant, et il me le disait souvent en patois, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, me disait.
Dans cette émission, vous avez entendu dans l'ordre, au Grand Café de Charles Trenet, La Fessée, Venise et Bretagne en duo avec Tino Rossi, La Ballade des Dames au temps jadis, Il suffit de passer le pont, La mauvaise réputation, Je suis un voyou, La chasse aux papillons, Brave Margot. J'ai rendez-vous avec vous, une coproduction de la Communauté des radios publiques de langue française de Fabienne Chauvière, France Inter, Monique Giroux et Martine Jessop, Radio-Canada, Jacques Donzel, Radio Suisse Romande et Gérard Vallet, RTBF, une réalisation de Marianne Crimbaud. Avec Janine Marc-Peuzet et Rebecca de Nantes.
C'était les feuilletons radiophoniques des médias francophones publics, la série Brassens. J'ai rendez-vous avec vous demain. Ce sera chez Jeanne. On écoute Bat for Lashes avec Sunday Love.
See her in blue eyes, numb and shining, in the face of strangers, in the city.
Un rock indépendant du rock alternatif pour ce groupe Bad for Lashes, Sunday Love. À suivre le temps d'un bivouac avec Daniel Fievé. Aujourd'hui, le bivouac s'installe au milieu des plantes sauvages pour ensuite partir à la rencontre du sport à travers le monde. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur France Inter. Il est 15h.